une question pour vous. Est-ce que Dieu est au contrôle du monde? La parole de Dieu va nous donner une réponse rassurante pour tous les croyants, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis heureuse de vous parler encore aujourd'hui et de pouvoir poser des questions aux Saintes Écritures en espérant que certaines d'entre elles soient aussi vos questions. Et Dieu va répondre à chacune d'entre elles parce qu'il aime se faire connaître à nous, ses créatures. Voici donc nos questions. Est-ce que Dieu nous invite à le louer, à chanter en son honneur? Que signifie « chercher la face de Dieu » Est-ce que Dieu est réellement au contrôle du monde? Est-ce que c'est grave de s'en prendre à quelqu'un qui travaille dans l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans des bâtiments superbes pour adorer Dieu? Est-ce que c'est bien vrai que la miséricorde de Dieu est inépuisable? Est-ce que Dieu s'est toujours identifié à son peuple? Restez avec nous. On va bientôt entendre les réponses à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly, qui a ouvert sa Bible et qui est prêt à nous enseigner la merveilleuse parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, je ne dirai jamais assez combien ta parole est merveilleuse, combien elle fait du bien à mon âme. Je te demande de faire du bien à nos âmes aujourd'hui, de nous fortifier, de nous encourager par tes saintes écritures, que ce soit toi-même qui le fasse dans nos cœurs. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Dieu s'intéresse au cœur des siens avant même la politique. Le transport de l'arche à Jérusalem est plus important à ses yeux que tous les événements politiques qui ne sont pas mentionnés dans le livre des Chroniques. Le récit du transport de l'arche démontre que nous nous épargnons bien des ennuis lorsque nous suivons les instructions de Dieu en le servant. De plus, la deuxième fois, l'arche fut transportée à Jérusalem au cours de grandes célébrations. Même David dansa devant l'arche de Dieu. Si les chrétiens fréquentaient les églises avec joie, alors les gens seraient davantage attirés vers Jésus-Christ. À la fin de la dernière émission, nous étions rendus au cantique qui termine le chapitre 16. Ce cantique est en fait le psaume 105. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Oui, chers amis, nous sommes invités à louer l'Éternel. Dieu agit dans le passé et il agit encore aujourd'hui. Nous voyons sa main dans bien des événements. Verset 9. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Chanter est une façon importante et agréable de louer Dieu. Versets 10 et 11. Glorifiez son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Nous sommes invités à chercher la face de Dieu. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, nous lisons. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour être sauvés, nous n'avons qu'à venir au Seigneur Jésus et mettre toute notre confiance en lui. Dieu a promis que nous serions sauvés, mais cela ne garantit pas une communion intime avec lui. Nous devons avoir recours à Dieu et chercher continuellement sa face. Est-ce que vous cherchez la face de Dieu? Cherchez-vous à connaître Dieu? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez en vous levant le matin? Quelle est la première chose que vous pensez en allant vous coucher le soir? Et pendant la journée, à quoi ou à qui pensez-vous? Oubliez-vous Dieu complètement au travail, à l'école ou lors d'une soirée sociale? La Bible nous exhorte, nous encourage à chercher la face de Dieu, à préserver ce lien intime, cette relation personnelle avec Dieu, en tout temps et en tout lieu. Verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Chers amis, nous avons un Dieu puissant, et il est avec nous lorsque nous le servons. Versets 13 et 14. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Dieu est au contrôle du monde. Dieu exerçait ses jugements sur toute la terre à l'époque, et il le fait encore aujourd'hui. Dieu gouverne toujours le monde. Je sais que Satan est le prince de ce monde, comme le déclare la Bible, et que Dieu le laisse agir présentement, et qu'il sera encore plus libre d'agir à la fin de la grande tribulation. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu jugera Satan et toutes ses œuvres. Versets 15 à 17. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. De nombreuses personnes n'attachent plus d'importance à l'alliance de Dieu avec Abraham. Cependant, David sait qu'elle est éternelle. Les termes de l'alliance entre Dieu et Abraham s'accompliront tous, et Dieu redonnera à Israël son pays. Tout comme Dieu a fait une alliance avec Abraham et sa descendance, de même, Dieu a fait une alliance avec nous. Il a promis des bénédictions spirituelles en Jésus. David avait compris que Dieu avait fait une alliance avec lui au sujet du territoire d'Israël. Lisons les versets 18 à 22. Disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Réfléchissez avant de vous en prendre à quelqu'un dans l'œuvre. Dieu a protégé les patriarches alors qu'ils se déplaçaient d'un pays à l'autre. Ce texte réfère à Abraham, Isaac et Jacob, mais il s'applique à nous aussi. Avant de mettre la main sur un ouvrier de Dieu ou de parler contre lui, demandez-vous si vous faites progresser l'œuvre de Dieu ou si vous l'entravez en agissant ainsi. Versets 23 à 25. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Aujourd'hui, la création souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la rédemption des fils de Dieu. Un jour, elle sera soulagée de ses souffrances. Alors, ce sera une célébration musicale comme nous n'en avons jamais entendu. Ce sera un grand jour. Verset 26. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Les idoles ne sont rien. Ce ne sont que des morceaux de bois, de pierre ou de métal. Par contre, Dieu est le Créateur. Versets 27 à 29. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. » Ces versets n'enseignent pas d'adorer dans des bâtiments superbes. Ils enseignent à adorer Dieu dans la beauté de sa sainteté, pour ses perfections infinies. La plupart d'entre nous ne savons pas vraiment ce qu'est que d'adorer. N'avez-vous pas envie de dire un « Amen », un « Ainsi soit fait » du fond de votre cœur en lisant ce cantique? Versets 30 à 34. « Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre, le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu est inépuisable. Vous et moi en avons besoin. Pourquoi ne pas demander à Dieu de manifester sa miséricorde envers vous? Il répondra à vos besoins. Versets 35 à 40. Dites, « Sauve-nous, Dieu, de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, « Amen, louez l'Éternel. » David laissait là devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissait Obed-Edom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68, Obed-Edom, fils de Jedutun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Il semble que les sacrifices furent interrompus pendant le règne de Saül. David réorganise le tabernacle et les sacrifices. L'arche est à Jérusalem et il désigne des personnes pour faire le service. Verset 41. Auprès d'eux étaient Héman et Jedutun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Voilà la raison pour louer Dieu. Vous la connaissez maintenant. Car sa miséricorde dure à toujours. Le désir qu'avait David de construire un temple plut à l'Éternel, et il répète le récit de 2 Samuel, chapitre 7. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Chronique, chapitre 17, versets 1 et 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Nathan a dit ce qu'il pense être bien, mais Dieu devra lui demander de reparler à David. Versets 3 à 5. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. » Dieu s'est toujours identifié à son peuple. C'est pourquoi il s'est revêtu de notre humanité. Dans l'Ancien Testament, il rencontrait les siens dans une tente, puisqu'il vivait dans des tentes. Verset 6. partout où j'ai marché, avec tout Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, « Pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? » Dieu leur rappelle qu'il n'a pas demandé qu'on lui construise un temple alors que le peuple se construisait des maisons et s'installait dans la terre promise. Versets 7 et 8. Maintenant tu diras à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Dieu rappelle à David ses origines humbles et le fait que c'est lui qui l'a établi roi sur son peuple. David est un personnage célèbre de l'histoire. Versets 9 et 10. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Voyez notre Dieu merveilleux en action. Dieu voulait lui bâtir une maison, un temple, et Dieu lui dit non, mais il promet ensuite à David de lui bâtir une maison. Versets 11 et 12. Quand tes jours seront accomplis, et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Dans l'immédiat, ce fut Salomon qui construisit un édifice. Mais cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. L'ange dit à Marie, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Citation de l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 31 à 33. Revenons à notre texte. 1 Chronique, chapitre 17, et cette fois, lisons ensemble les versets 13 et 14. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Dieu est très sérieux. Il établira un royaume sur la terre, et Jésus-Christ viendra le faire un jour. Versets 15 et 16. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Êtes-vous étonné de la bonté, de la grâce et de la miséricorde de Dieu? David est étonné de la bonté, de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers lui. Moi aussi, je suis étonné de la bonté, de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers moi. Pourquoi est-ce que Dieu a été bon envers vous? La miséricorde de Dieu est inépuisable. Chers amis, venez à lui afin d'être en communion intime avec lui. Et par le fait même, goûtez à cette bonté, à cette grâce, à cette miséricorde que seul Dieu peut accorder. Verset 17. C'est peu de chose à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé Éternel Dieu. » David est au comble de l'étonnement d'apprendre que le Messie qui descendra d'Abraham et de Juda descendra aussi de lui. Verset 18. Que pourrais-tu dire encore, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. David est si touché qu'il ne sait plus que dire à Dieu. Il est bouche bée. Verset 20. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Quel privilège que ce si grand Dieu soit le nôtre. Est-il le vôtre? Est-il ton Dieu? Verset 25. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Chers amis, que rajouter à de tels textes? Sinon vous encourager à ne pas hésiter et à venir maintenant à Dieu pour recevoir ce qu'il offre présentement à chacun d'entre vous, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce. Regardez la grandeur de ce don qu'il vous offre maintenant à la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a exprimé de la sorte, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 8. L'apôtre Paul précise que c'est un cadeau de Dieu, un don gratuit. Avez-vous déjà entendu parler ce genre de langage? C'est comme si on nous offrait des rabais en précisant que, oui, on vous le donne, c'est gratuit, venez le chercher, puis on insiste. Dieu fait exactement la même chose. Il interpelle chacun d'entre vous en insistant, en précisant qu'il vous le donne. On ne mérite pas ce qu'il nous accorde. On ne peut acheter ce qu'il nous accorde. Mais on peut le recevoir, car c'est un don gratuit. Il nous donne la vie éternelle. Il nous accorde un plein pardon. Tournez-vous vers lui. Tendez vos bras. Ouvrez votre cœur et recevez ce qu'il vous offre. Chers amis, prochaine émission, préparons-nous en lisant 1 Chronique, chapitres 18 et 19.
Merci beaucoup, Régent. J'ai bien aimé ça quand tu as dit qu'aujourd'hui, la création souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la rédemption des fils de Dieu. Qu'un jour, elle sera soulagée de ses souffrances et que ce sera une célébration musicale comme on n'en a jamais entendu. Waouh, j'ai bien hâte à ce jour. Entre-temps, je suis bien heureuse que Dieu nous ait laissé David comme exemple pour apprendre à le célébrer avec nos voix, avec nos instruments. Régent nous a lu certaines des louanges de David aujourd'hui dans le premier livre des Chroniques. Par exemple, il a dit, « L'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les cieux, car tous les dieux sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté est devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » Et il a même dit que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et j'en passe. Parfois, quand j'anime le temps de louange à l'église et que je ne sais pas comment commencer, je vais voir dans les psaumes, il y a plein de belles louanges adressées à Dieu, ce qui me donne un bon départ. Mais j'ai personnellement plein de louanges à lui adresser moi-même. Je le loue pour sa bonté envers moi. Je le loue pour la vie éternelle qu'il m'a donnée gratuitement. Je le loue pour les frères et sœurs qui font partie de la famille de Dieu, ceux qu'il a rachetés par le sang précieux de Jésus. Je le loue parce que je suis certaine qu'un jour, je vais passer l'éternité dans sa présence et parce qu'il m'a promis d'essuyer toute larme de mes yeux. Je le loue pour la toute-puissance qu'il déploie dans ma faiblesse quand j'ai à le servir. Je le loue pour son amour inconditionnel. Je pourrais le louer pendant des heures et des heures, et je trouverais encore d'autres raisons pour le louer. Mon ami, est-ce que le Seigneur est l'objet de tes louanges? Es-tu de ceux qui sont reconnaissants envers lui pour l'assurance qu'ils ont de pouvoir aller au ciel un jour? As-tu reçu le cadeau de la vie éternelle? Qui que tu sois et où que tu sois en ce moment, tu peux recevoir ce cadeau. Si tu crois que tu as trop péché dans ta vie et que Dieu ne pourrait jamais te pardonner tout ça, détrompe-toi. Paul nous a dit dans sa première épître à Timothée, au chapitre 1, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul était un très grand pécheur et Dieu l'a sauvé. Et si tu es une bien bonne personne, si tu fais beaucoup de bien à ton entourage, si tu es fidèle à ton conjoint, à ta conjointe, si tu as élevé tes enfants d'une manière irréprochable et qu'en plus tu as souffert, si à cause de tout ça, tu as de la difficulté à avouer que tu es un pécheur, une pécheresse, laisse-moi te citer ce que l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23. Il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ne te décourage pas, parce qu'il a ajouté au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut, le don gratuit de la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est gratuit. N'essaie pas de te sauver par tes bonnes œuvres, c'est impossible. Crois au Seigneur Jésus, repens-toi et reçois le don gratuit de la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? J'aimerais quand même devoir répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Ouais.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Via courriel.
www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec. G1G-6P2. À demain.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.